Chapitre 2e. Madame de Lude s'éveilla le lendemain au milieu de la matinée. L'essaim gracieux des souvenirs de la veille vint voltiger autour de son chevet et la fit sourire. Elle se répéta la phrase du roi. Le sort, avec raison, le donne à la plus belle. La plus belle, c'est toujours flatteur de recevoir la pomme, fût-ce même dans un bal de village. Mais la cour de France, si riche en beauté, être proclamée la plus belle par la bouche du roi, une autre en aurait perdu la tête. Laure se contenta d'en être joyeuse. La fatigue de la veille était entièrement dissipée. Elle se sentait prête à voler à de nouvelles fêtes. Mais hélas, le carême allait être là. Il soufflerait sur tous ces beaux divertissements. Il faudrait, bon gré mal gré, quitter la livrée du plaisir pour celle de la pénitence, se donner l'air un peu dévot et se mettre en retraite dans quelque couvent. C'était bien ennuyeux. Elle calcula qu'il n'y avait plus que 3 jours de grâce avant d'entrer dans la triste quarantaine imposée aux catholiques romains. Elle ne put s'empêcher de soupirer. « C'est affreux, dit-elle, comme ce carême est toujours pressé d'arriver. Un peu plus, ma pauvre fête y était englobée comme il y a 2 ans. Mais aussi, c'est ridicule à moi d'être née le 20 février. Enfin, je suis bien aise que les cendres ne soient que le 22. Je pourrai au moins réunir mes amis et donner un semblant de fête dont ma petite Claire profitera. » Ne voulant pas se rendormir, elle sonna, et Louisette parut. Louisette était une de ces soubrettes gentilles, spirituelles, élégantes, qui étaient pour leur maîtresse moins que des amies et plus que des servantes, et dont la race aimable est éteinte maintenant, mais qui ont très réellement existé et n'ont pas été inventées, comme on le croit vulgairement, par les auteurs de comédies. Louisette ouvrit les volets de sa maîtresse, puis ressortit de la chambre, et un instant après lui apporta son chocolat. Tandis que la comtesse déjeunait, la jeune suivante prépara la robe de chambre et les pantoufles et s'accouda ensuite sur le dossier d'un fauteuil dans une attitude expectante, sachant bien que Madame de Lude lui dirait quelque chose de la fête de la veille. En effet, la comtesse recommença à peu près pour Louisette le récit qu'elle avait fait à Claire. Il est si doux de parler de ses succès. Elle entra même dans de plus grands détails sur la mésaventure de Madame de Béjac. « Sa femme de chambre est ma cousine, » dit Louisette. « Elle m'a raconté que sa maîtresse est rentrée hier dans un état affreux. » Elle lui a reproché de l'avoir mal coiffée, mal habillée, lui a même donné un soufflet. Puis elle a eu une crise de larmes et de sanglots si violente qu'on crut qu'elle allait étouffer. « Pauvre femme, c'est triste. On a été vraiment cruel de lui laisser voir aussi nettement combien on la trouvait ridicule. Mais c'est sa faute aussi. » Pour aller dans de telles fêtes et surtout pour jouer des rôles de comédie, il faut être jeune et belle comme madame, autrement il faut bien s'attendre à faire rire les gens. C'est assez vrai. Pour moi, je me suis bien promis de quitter le monde à 39 ans. J'ai remarqué que la beauté d'une femme entre à 40 ans dans une période de décadence très rapide. Et je trouve qu'il ne faut pas se montrer quand on est plus bonne à voir. Madame a bien raison, répondit Louisette, mais madame sera toujours belle, madame n'aura jamais 40 ans. « Je l'espère bien, » allait dire la comtesse quand une réflexion soudaine l'arrêta. Le temps qui marchait pour tous devait marcher aussi pour elle, et en marchant il risquait fort de la faire arriver à cette époque redoutée où, pour n'être pas ridicule, elle devrait renoncer à ces plaisirs qu'elle aimait tant. Combien d'années la séparaient encore de cette époque? Elle voulut se le demander. « Allez, Louisette, je vous rappellerai si j'ai besoin de vous. »« Quel âge aurai-je demain ?» se demanda-t-elle. Non sans quelque effroi, lorsque la suivante fut sortie. Quel âge aurais-je demain? Les heures et les jours avaient glissé pour elle si vite, sans ennui comme sans chagrin, qu'elle ne savait réellement pas le compte de ses années. Mais le calcul n'en était pas impossible à faire. Elle était devenue veuve à 20 ans et c'était en l'année 1742. Or, on était en 1760, cela faisait donc 18 printemps. 18 printemps ajoutés à 20 ne pouvaient plus s'appeler des printemps, il fallait leur donner le titre plus mûr d'été. 20 printemps et 18 étés faisaient... Laure retardait autant qu'elle le pouvait la solution du problème, mais enfin il lui fallut bien arriver à cette conclusion peu flatteuse que le lendemain elle aurait 1 an de moins que le terme fixé pour sa retraite. « C'est impossible, » s'écria-t-elle. Elle reconta une seconde fois, puis une troisième... et le résultat de l'addition se trouva impitoyablement le même. « Allons, » fit-elle, « il faut se rendre à l'évidence, j'aurai demain 38 ans, et hier j'ai ri à Madame de Béjac qui en a 40. »« Oui, mais il y a 40 et 40. Madame de Béjac a l'air de ma grand-mère. Il se peut que j'ai 38 ans, mais j'en parais bien 10 de moins. J'en ai la preuve. Hier, justement, que de succès. Allons, que m'importe mon âge? Une femme est jeune tant qu'elle le paraît. Quand je me suis fait cette promesse de quitter la cour à 39 ans, j'étais folle. Je me retirerais sans doute, mais quand je remarquais dans ma beauté quelques signes visibles de décadence, le faire plus tôt serait ridicule. Je suis toujours pour qu'une femme prenne sa retraite avant d'avoir perdu ses charmes, mais je vois par ma propre expérience qu'il est absurde de fixer un âge pour cela, puisque les unes sont vieilles bientôt et les autres jeunes bien tard. Rassérénée par ses réflexions, la comtesse Laure rappela sa camériste, se fit donner sa robe du matin, passa dans son boudoir et s'assit à sa toilette. C'était une table de marbre rose, supportée par 2 sirènes en argent et sur laquelle, outre les objets nécessaires communs aux gens civilisés de tous les temps et de tous les pays, on en voyait une foule d'autres passer maintenant à l'état d'ornement d'étagères, tels que la boîte à poudre, la boîte à mouches et la tabatière. Le miroir de Venise paraissait déjà tout acclimaté et répétait comme à loisir ses boîtes ciselées et émaillées. « Voyons un peu, miroir étranger, » fit gaiement Madame de Lude, « ce que vous allez me dire de ma figure. Je vous préviens que tous vos prédécesseurs m'ont fait cette uniforme déclaration. Tu es belle. Je pense que vous allez me payer votre bienvenue par un aimable compliment. » Laure, en parlant ainsi, ne réfléchissait point que depuis fort longtemps elle ne consultait pas son miroir le matin. C'était l'après-midi, c'était surtout à la clarté flatteuse des bougies qui lui avait répété qu'elle était belle. Mais à l'heure où elle se penchait sur la glace de Venise, un beau soleil d'hiver emplissait le boudoir rose de sa lumière vive et brillante et dessinait les plus imperceptibles détails avec une merveilleuse netteté. Le soleil est un grand indiscret, en même temps qu'un moraliste sévère. Il ne pactise jamais avec la vanité comme le fait si volontiers la lumière artificielle. Il indique avec la plus terrible franchise les moindres petits défauts d'un visage. Il les accentue, il les exagère. Qu'il y ait une ride, une seule, sur un front uni comme un marbre, le soleil, cet artiste minutieux comme un peintre flamand, y met une lumière et une ombre qui la creuse profondément. Qu'il y ait un cheveu blanc dans une chevelure d'or ou d'ébène, le soleil le regarde et le fait briller comme un fil recouvert de cristaux de givre. Les dames qui n'aiment pas vieillir, qui entendent conserver longtemps leurs illusions de beauté, font sagement de ne jamais consulter leur miroir un jour de soleil. Madame de Lude, qui ne croyait pas avoir rien à craindre des rayons de n'importe quel astre, interrogea hardiment son nouveau conseiller des grâces. Il lui dit d'abord qu'elle était ravissante, que ses épaules rondes surpassaient en blancheur le duvet de cygne qui bordait sa mante, que ses yeux noirs avaient le doux éclat des étoiles, que la fleur du grenadier était d'un incarnat moins vif que ses lèvres, et qu'il eût fallu aller en Orient, tout au moins à Naples, pour trouver des cheveux si noirs et si longs. Voilà ce qu'il lui dit, et un miroir français, en dépit du soleil, s'en serait, croyons-nous, tenu là. Mais le nôtre avait Venise pour patrie, Venise où il était peut-être alors à la mode de dire la vérité aux gens. Ce que la glace italienne avait dit d'abord était la coiffure dont on enveloppe pour les enfants l'amertume des pilules, le grain d'encens qu'un critique poli brûle sous le nez d'un auteur et qui sert d'introduction à la terrible série des mets. Il fit ensuite remarquer à la belle Laure que son front si pur, si blanc, avait 3 plis horizontaux bien fins, bien légers, et que du coin de ses beaux yeux rayonnaient d'autres plis bien fins, bien légers aussi, presque invisibles. C'était tout. Mais c'était assez, c'était trop. Elle ne put retenir une exclamation douloureuse et recula avec un moment d'effroi. En cet instant, la petite Claire entrait gaie comme une alouette. « Ah, comme je suis contente !» dit-elle à la comtesse en l'embrassant. « J'ai fait le plus joli rêve. Imagine-toi que j'étais riche. Je ne sais pas comment cela se faisait, mais c'était ainsi. Je n'allais plus au couvent et... Laisse-moi tranquille, ton babil est insupportable. Oh !» Je veux te dire la fin de mon rêve, ce n'est pas bien long. Je me mariais avec mon petit vicomte de Chanzé, et j'étais heureuse, et il était heureux, et toi aussi, ma bonne petite tante, tu l'étais. Claire, s'écria Madame de Lude avec impatience, je te dis de t'en aller et de me laisser en repos. La jeune fille regarda sa tante avec un douloureux étonnement. Depuis 4 ans que, pauvre orpheline, elle avait trouvé un asile sous le toit de la comtesse, c'était la première fois qu'elle surprenait chez celle-ci un mouvement d'humeur. « Mais que veut-on ? Le jour où l'on découvre ses premières rides, il est bien permis d'avoir du dépit. Si les dames avaient l'habitude d'être franches, beaucoup avoueraient que le jour où elles ont fait une découverte analogue, elles ont querellé leurs maris, grondé leurs enfants, brusqué leurs domestiques, ou si domestiques, enfants et maris n'étaient point là, fait tomber leur colère sur un chien, un chat, ou même, à défaut, sur un objet inanimé. Rien de plus naturel. Mais Claire, qui ne pouvait savoir le motif de la brusquerie qu'on lui témoignait, s'en alla toute triste en se demandant ce qu'elle avait fait pour être si mal accueillie. Elle ne fut pas plutôt sortie que la comtesse se repentit de son impatience. « Oh, le vilain miroir » dit-elle, « qui vient de me faire gronder ma chère enfant gâtée. Et pourquoi? Parce qu'il me débite des mensonges, car enfin il est impossible que ce que j'ai vu soit vrai. Allons, allons, j'étais folle. Ce ver frais débarqué n'a pas encore eu le temps de s'accoutumer à moi. Il aura conservé l'empreinte des rides de quelque vieille vénitienne qu'il aura marchandée, et c'est ce qu'il vient de me faire voir. » Elle regarda de nouveau, mais la glace lui montra obstinément les mêmes sillons sur son front et sur ses tempes. « Quelle horreur ! » s'écria-t-elle. « J'ai l'air d'une vieille femme. » « mais non, cela n'est point. N'est-ce pas hier que j'étais environnée de tant d'hommages ? N'est-ce pas hier qu'un monarque m'a appelée la plus belle et m'a comparée à la reine des fleurs ? Défions-nous de ce miroir. Tout ce qui vient d'Italie est perfide. C'est un pays de sortilège. » Cette glace a vraiment quelque chose d'étrange, de fantastique. Au milieu de ces feuillages de verre si brillants qui l'encadrent, elle s'enfonce noire et profonde comme un abîme. Qui sait si elle n'est pas l'œuvre de quelque magicien ? Mélor avait trop d'esprit pour persister dans sa vaniteuse erreur. Elle comprit bientôt que le magicien était le temps qui sonnait l'heure de la retraite. Elle avait regimbé, elle avait demandé des signes visibles pour se rendre, et les signes étaient là. Que ferait-elle maintenant ? Elle s'accouda sur sa toilette et resta longtemps le front dans sa main. Des pensées grises et même noires avaient pénétré dans le boudoir rose, dans ce boudoir plein de rayons de soleil, de sourires, de fleurs et de chants d'oiseaux. La belle comtesse aimait à régner, on prétend que nous avons toutes plus ou moins ce goût-là, et la pensée de descendre de son trône lui était bien dure. Elle avait un an pour s'y accoutumer si elle ne voulait point dépasser le terme fixé par elle-même, mais un an c'est bien court quand il y a une abdication au bout. Il est vrai que rien ne la forçait d'abdiquer encore, personne ne se doutait du déclin de sa beauté, personne ne s'en apercevrait de longtemps peut-être, le soleil n'étant guère convié aux fêtes de la cour. Mais elle se rappelait combien certaines femmes vieillissent vite une fois qu'elles ont commencé. Quelques mois suffisent souvent pour avoir raison d'une beauté qui s'était longtemps conservée. Elle pouvait être du nombre. Emploierait-elle alors ces artifices des vieilles coquettes dont elle s'était toujours moquée ? Porterait-elle du fard ? Elle qui, malgré la mode, n'avait jamais voulu mettre ni blanc ni rouge sur ses joues fraîches et veloutées ? Elle, la comtesse de Lude, du fard ? Et à quoi cela servirait-il ? Ne sentirait-elle pas ses rides sous son blanc et sa pâleur sous son rouge ? Quand elle pourrait tromper les autres, se tromperait-elle elle-même ? Être et paraître sont bien deux, et le paraître qui satisfait tant de femmes n'aurait pu contenter la fière comtesse. Et puis ces ruses ne peuvent servir que pendant l'époque de transition entre l'été et l'hiver de la vie. Il vient un moment où, quoi qu'on en ait, il faut être franchement vieille, et alors, avec quel mépris, vous regardez les courtisans qui vous ont encensé et les beautés qui vous succèdent. Avec quelle maligne joie le monde jette à terre l'idole de la veille, et comment l'outrageant se venge de l'avoir adorée. Non, la comtesse de Lude serait sage. Elle se tiendrait parole, elle quitterait le monde dans un an jour pour jour, elle y était résolue. Comme elle se regardait encore une fois dans le miroir de Venise, et qu'elle recomptait stoïquement les plis de son front, elle vit une tête charmante toute semblable à la sienne qui s'appuyait sur son épaule. Mêmes yeux, mêmes cheveux, mêmes traits, mais sans rides cela, et embellie de l'éclat si frais de la 16e année. C'était Claire, qui rentrait sans bruit dans le boudoir, mettait sa joue contre la joue de sa tante en lui demandant « Qu'as-tu ? » « Rien, mon enfant, » répondit la comtesse en passant son bras autour de la taille de la jeune fille. « Rien, demeure ainsi. » Et pendant quelques minutes, elle contempla le groupe aimable qu'elles formaient toutes deux. « Ah, pensa-t-elle, ce n'est rien d'être belle. Il faut encore être jeune. » « Tu es souffrante, ma chère petite tante, » dit Claire. « Cette vilaine fête t'a fatiguée, et puis je t'ai encore fait veiller. Pardonne-le-moi. »« C'est à toi, ma pauvre mignonne, de me pardonner le mouvement d'impatience qui m'a fait te renvoyer tout à l'heure. J'avais un peu de mal de tête qui se dissipe maintenant. Je crois que tu me parlais d'un joli rêve où il était question de mariage. Oui, ma tante chérie, je me mariais et j'étais belle avec ma robe de satin blanc. Oh, mais belle! Mon petit mari était bien joli aussi, tout en velours bleu clair. C'est dommage que ce soit un rêve. Oui, mais sais-tu, ce matin, en m'éveillant, j'ai pensé que tu pourrais bien le réaliser. Moi? Et comment, je te prie? Puisque tu es si bien avec le roi, ne pourrais-tu pas le prier d'ordonner à M. de Chanzé qu'il permette à son fils de m'épouser? Non, ma chère petite folle. D'abord, je n'ai nul crédit sur le roi, et ensuite, le roi aurait beau donner des ordres à M. de Chanzé, celui-ci n'obéirait pas. Quoi? Pas même s'il le menaçait de la Bastille? Pas même. Il est aussi entêté qu'abard. Ainsi le roi ne peut rien pour moi? Rien du tout. Quel malheur! Tu l'aimes donc bien, ce petit Chanzé? Et comment, non? Nous avons été élevés ensemble. Tu sais bien, nous jouions toujours à mari et femme. Et puis il est si joli. Il a tant d'esprit. Oui, c'est un charmant jeune homme. Et c'est grand dommage qu'il ait le père qu'il a. Il faut te dire, ma chère petite Claire, que j'ai fait il y a quelque temps une démarche auprès du vieux comte. Je lui ai offert de te donner une dot de 30 000 écus. J'aurais vendu pour la faire ma garniture d'émeraude. Oh, que tu es bonne! Je t'aime, et je voudrais te voir heureuse. Mais il n'y a pas moyen de s'entendre avec lui. Il prétend que son fils épouse une femme très riche. Son fils n'épousera personne, il me l'a bien promis. Puisque je serai religieuse, il deviendra chevalier de Malte. Cela fera bien enrager son père. Je n'aurais pas cru cela de ce vieux monsieur de Chanzé. Il m'aimait tant quand j'étais petite. Il t'aime toujours. Si tu avais seulement un petit million d'écus, il ne voudrait pas d'autre bruit que toi, il me l'a dit. C'est pourtant dur qu'il me faille aller au couvent par sa faute. N'oublie pas que tu as une porte ouverte pour y échapper. Malgré ton premier refus, le baron de Rèze est encore tout disposé à te donner sa main. Il te prend sans doute, lui. Mais ma petite tante, il a 80 ans. Non, non, 60. N'importe, j'aime encore mieux le couvent. Eh bien, tu as peut-être tort, mon enfant. À ton âge, j'étais exactement dans la même position que toi. Sans dot, puisque d'après nos aimables lois, toute la fortune passe au garçon. Il me fallut opter entre le couvent et M. de Lude. Je choisis M. de Lude, et je m'en trouvais bien. Il n'avait pourtant guère moins de la soixantaine, mais il était si aimable et si bon que je m'attachais bien tendrement à lui. Oui, mais tu n'aimais personne d'autre. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas un petit Chanzé dans la tête. Mais ma chérie, ces liaisons enfantines sont presque toujours des amours pour rire. On n'y pense guère quand on a quelques années de plus. Et si tu voulais être raisonnable? Non, non, je ne veux pas. Je t'avoue, ma belle tante, que le vicomte et moi, nous nous aimons aussi sérieusement que si nous avions 50 ans. Et nous nous aimerons toujours. Je ne veux pas d'autre mari que lui. Et ne changerai pas d'avis, non, pas même si le roi me demandait en mariage. Et lui, de son côté, refuserait pour moi les plus grandes princesses. Il me l'a écrit encore hier. Comment? Comment il t'écrit? Ne gronde pas. Oui, il m'écrit, et il donne ses lettres à Louisette. Je la chasserai. Oh non, qui ferait alors nos petites commissions? Car il faut tout dire, je réponds. Claire, dit la comtesse, en s'efforçant de prendre une voix sévère, Claire, c'est mal. Comment donc? Fit le jeune enfant d'un ton mutin. Quel mal! D'abord, tu ne le trouves pas, et je vois bien sous ton masque sérieux que tu as envie de rire. « Pas du tout, mademoiselle. Je vous trouve très blâmable d'entretenir une correspondance avec un jeune homme dont le père est opposé à votre union. »« Mais encore une fois, quel tort lui faisons-nous à ce père? Nous n'allons pas contre sa volonté. Nous nous écrivons seulement que nous nous aimerons toujours, et nous gémissons un peu sur notre infortune. Est-ce qu'il faudra encore se priver de ce pauvre petit bonheur? Il faut, ma chère enfant, savoir se priver de tout ce qui n'est pas convenable. Aussi j'espère que tu n'écriras plus. » Oh, tante chérie, une toute petite fois encore pour le prévenir. Et comme il me répondra, il faudra bien aussi lui répondre, mais je ne te le dirai plus. Oh, ajouta-t-elle en prenant un air grave, comme c'est triste d'être pauvre. Et surtout d'avoir des amis pauvres, répondit la comtesse. Si ton frère le pouvait, il doterait volontiers sa petite sœur. Mais le pauvre homme n'a pas un écu de plus qu'il ne faut pour soutenir son rang. Et moi qui t'aime autant que lui au moins, je suis, tu le sais, dans la même position. Quand je t'ai prise avec moi, J'espérais que ta charmante figure et ton aimable caractère te feraient trouver un mari peu soucieux d'argent. Mais je ne vois absolument que le baron de Rèze qui... Je t'en prie, n'en parle pas. Pourquoi ? Il est de mon devoir de te montrer, puisque tu es trop peu expérimenté pour les voir, les avantages du parti qu'on te propose. Le baron est un galant homme qui te rendrait parfaitement heureuse. Il a de l'esprit, ayant beaucoup voyagé, il sait infiniment de choses, et il est impossible de s'ennuyer avec lui. Sa grande fortune lui permettrait de satisfaire toutes tes fantaisies. Tu pourras voir, si le cœur t'en disait, les plus beaux diamants et les plus beaux chevaux de Paris. Je ne te dis rien de son hôtel, tu le connais, il est magnifique. Il a en Bourgogne un château splendide, toi qui aimes la campagne, cela ne te tente-t-il point ? Oui, belle amie, cela me tente beaucoup, répondit Claire en riant. Et comme je veux rester fidèle à mon premier amour, je me sauve, pour ne pas céder aux puissantes séductions du vieux baron. Non, reste, petite folle, je n'ai pas fini. C'est bien pour cela. Pense donc si ton éloquence allait me gagner, mon petit chevalier mourrait de chagrin. Non, non, je cours dans ma chambre pour penser à lui.
Charmant enfant, dit la comtesse lorsque sa pupille fut sortie. Quel dommage de la laisser enfermée dans un monastère, si jeune, si belle, si gaie, si bien faite pour le monde, s'il y avait un moyen.
Toute la journée, madame de Lude fut sérieuse. Elle ne sortit point, ne reçut personne, et Louisette la vit plusieurs fois revenir au miroir de Venise. Évidemment, les découvertes du matin continuaient à la faire réfléchir.